La Méridienne.
Allez, notre invité du jour, il s'appelle Édouard Penaud et il fait partie de la compagnie du Touan, c'est ça. Et ensemble, on va parler d'un festival qui arrive prochainement, qui s'appelle Les Longues Journées. C'est du 5 au 7 juillet, c'est ça?
C'est le 5, 6, 7 juillet, exactement. Merci de m'inviter.
Et bien, avec plaisir de vous recevoir. Vous êtes comédien, metteur en scène. Les premières traces de théâtre que j'ai trouvées dans votre parcours, c'était à Paris, au cours Florent.
C'est ça.
Et juste avant, on a entendu dans le journal des Pitchouns qui faisaient du théâtre. Peut-être qu'à cet âge-là, déjà, vous aviez le théâtre en ligne de vue, quelque part dans votre vie.
Contrairement au Ptio, là, non, moi j'ai commencé le théâtre bien plus tard.
Ouais.
J'ai commencé le théâtre carrément à 18 ans, je crois, 19 ans, à la fin de mon lycée. Mmh. Et moi, en plus, j'ai grandi en Italie, j'ai fait mes études en Italie. Et ça a été après, voilà, j'ai découvert le théâtre à 18 ans, 19 ans, ça m'a paru une petite évidence. Et mon frère était déjà arrivé sur Paris pour ses études à lui, et j'ai décidé de partir à Paris.
Okay.
Donc voilà, je suis rentré au conservatoire effectivement en 2011, il y a 13 ans.
Et vous avez suivi un beau cursus de théâtre.
C'est ça, en fait, j'ai fait Florent, après je suis rentré au Conservatoire National de Paris.
Ouais.
Ça a été un super tremplin, en fait, c'est clair. Super expérience, et du coup, comme tu as dit, effectivement, ces 8 ans de formation se sont terminés donc en 2018, quoi, 2019. Okay. Et après, on a enchaîné des projets, voilà, des projets.
Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé de Paris au Beaujolais, à revenir peut-être ou à atterrir à Ville-sur-Jarnou?
Alors, c'est la question, mais en fait, non, à la base, mes parents sont français et expatriés en Italie, c'est pour ça que moi je suis né là-bas, etc. Mais toute ma famille du côté de ma mère est de Ville-sur-Jarnou.
Okay.
Donc, moi les petits coteaux là-haut, je les fréquente depuis que je suis petit haut, justement.
Ouais.
Donc, c'était nos vacances, c'était toute la famille, c'était les vacances de famille, enfin, c'était les fêtes de famille. Mmh. Et puis, et en fait, c'est un lien, c'est ça le lien, en fait, hein, par rapport au festival.
Mmh.
Enfin, il y a un lien après un peu plus professionnel, mais le lien intime, c'est celui-ci, c'est la maison de mes grands-parents qui en fait, est le lieu où se déroule ce festival.
Ouais.
Et en fait, c'est un petit héritage que j'ai pris de mon grand-père. Quand mon grand-père avait créé une biennale de musique classique depuis fort longtemps, je pourrais même plus dire quand est-ce que ça a commencé. Mais vieillissant, le Covid est passé par là, c'était une biennale. Donc ça, on a eu un petit vide quoi, en 2021. Et l'idée était de le reprendre.
Okay.
De reprendre les concerts et d'en faire un week-end. En rajoutant du théâtre, c'est-à-dire un peu ma touche derrière. Quoi.
Et l'idée de ce festival, je crois, c'est pour ça que je demandais comment est-ce que vous êtes arrivé de Paris au Beaujolais, c'est d'amener aussi de la culture en milieu rural.
En milieu rural, exactement.
De sortir de l'urbain, des grandes salles, etc., et d'aller dans un lieu aussi un peu atypique.
C'est totalement ça. C'est-à-dire que ça, c'est cette dynamique-là qu'on a rêvé, et puis aussi par rapport à notre présent, quoi. C'est-à-dire, effectivement, je vais dire peut-être une banalité, mais dans les villes, on a Lyon ici, mais même Villefranche, mais je dirais plutôt vraiment les grosses métropoles, on va dire, elles sont bourrées, concentrées de propositions culturelles. Et ça a toujours accompagné, on va dire, un peu les artistes français, mais puis aussi les politiques, etc. Puis c'est un peu pour tout le monde un peu à ça, en fait, qui est de se dire il y a des endroits magnifiques. En ruralité, avec peut-être un accès à la culture plus sporadique, plus compliqué en termes de transport, en termes de propositions, etc. Et donc en fait, on s'inscrit carrément dans cette logique. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lieu de cette maison? Parce que du coup, c'est pas un théâtre, il y aura pas une scène de théâtre à proprement parler, ni une scène de musique d'ailleurs.
C'est ça.
Elle ressemble à quoi, les scènes?
Alors du coup, c'est une maison qui est assez grande, qui est entourée. Elle est même perchée sur une petite colline où on a un panorama magnifique sur Villefranche, mais sur toute la vallée du Rhône d'un côté et les coteaux du Beaujolais. Donc
pas mal.
C'est vraiment très très beau. Et en fait, le spot est tellement beau qu'on a, quand j'en ai parlé avec les amis, avec les camarades avec qui on fait ça, on a rêvé tout de suite du théâtre en plein air, en fait. Mmh. Donc ça se présente comme ça, on arrive, il y a une buvette, il y a vraiment tout ce qui est fait, on va dire, festival. Et après, chaque année, les spectacles qui sont créés pour le festival, pour l'occasion, ils sont créés, on va dire, par rapport à l'endroit qui est choisi où jouer.
Ouais.
Donc chaque année, on va dire, on investit des lieux de ce domaine, qui est la maison et le jardin et les terrains aux alentours, qui sont en fait le support vraiment du spectacle, des différents spectacles. Quoi.
Ça veut dire que les spectacles sont créés pour le festival.
C'est ça, exactement. Et ça, c'est une autre particularité de notre festival, c'est-à-dire que du coup, de notre intention artistique, je dirais ça comme ça, c'est un peu, je dirais juste notre délire en fait, ouais. qui est l'idée de créer des spectacles concrètement ouais. et créer des histoires. Je vais dire ça comme ça, mais issu du territoire. En gros, on se marre bien à aller chercher un peu les histoires, les petites anecdotes, pour en fait faire de la fiction
ouais.
à partir de ça.
Ouais.
Donc l'année dernière, on a créé un spectacle pour jeunes publics qui s'appelait Belunjugum, qui était c'est comme ça qu'on définissait le Beaujolais chez les Romains.
Okay.
En vrai. Donc on découvre en fait aussi dans notre recherche des choses qui nous...
Des légendes du Beaujolais.
Voilà, du coup, c'est ça. Et Irène et Antoine qui ont écrit et mis en scène ce spectacle se sont bourrés en fait de références du coin. Quoi.
Okay.
Et ça c'était trop bien parce que du coup t'écoutes un spectacle, tu dis ah Ville-sur-Gerdes, enfin on cite les lieux, il y a quelque chose de assez magique en fait d'entendre ça comme ça. Et ça c'est vraiment un parti pris quoi, c'est-à-dire que c'est le cœur en fait de notre création sur ce festival.
Il y avait un spectacle aussi l'année dernière, je crois, qui s'appelait Lali et qui parlait du vin pendant la guerre, c'est ça ?
C'est ça, c'était ouais.
Et du Beaujolais du coup, j'imagine.
Exactement.
Plus particulièrement.
Du coup, ça c'est un autre exemple mais qui marche bien, c'est-à-dire que Louis Berthélémy qui fait partie de qui est metteur en scène d'une des compagnies avec qui on a mutualisé nos efforts, avec qui on a construit tout ça. Avait une idée de faire un spectacle sur la guerre, et l'abomination de la guerre, et tout ça, en prenant vraiment appui sur Jean Giono et sur les écrits de Jean Giono. Et je lui avais dit, ouais, génial, super, et on est dans le Beaujolais. Comment est-ce qu'on fait le mariage, en fait, de ces contraintes, quoi? Et en fait, on a découvert effectivement que 14-18 était aussi une période où l'industrialisation du vin a été mise à comment dire a été lancée vraiment
ouais.
parce qu'on avait besoin de picoler en fait dans les tranchées quoi.
Fallait oublier l'horreur
exactement donc en fait l'horreur de la guerre était liée aussi au vin dans ce sens là et aussi très concrètement la production du vin, la nationalisation du vin rouge et toutes ces histoires qu'en fait on a en plongeant dans ces histoires, dans cette histoire là on s'est rendu compte en fait du lien qu'il y avait entre la 14-18, la guerre 14-18 et l'industrialisation du vin en France.
Ok. Et cette année, donc, il y a 3 spectacles de théâtre qui seront proposés. On peut peut-être faire le programme dans l'ordre et commencer par la première soirée, c'est le vendredi.
C'est le vendredi, c'est l'ouverture.
Soirée musicale.
Soirée musicale, un peu en hommage à ce que mon grand-père et ma famille avaient fait, donc ce concert de musique classique. C'est comme ça que le festival s'ouvre chaque année, comme l'année dernière. Donc oui, c'est le vendredi soir, à partir de 19h, on a un concert de musique classique. Donc on a concrètement un piano en plein air, en coucher de soleil, avec deux pianistes, Elsa Guerci, qui vient de Gênes, en Italie, et Jérôme Morel. Qui lui est plutôt de Paris, mais qui est mon oncle.
D'accord.
Donc ça sera eux deux qui vont nous faire vraiment vibrer ce piano en plein air. Et on aura une petite performance aussi en annexe, je dirais plutôt une performance sensitive, musicale, par Maxime Brun, qui est musicothérapeute et qui va être une petite invitation à des vibrations.
Ressentir la musique.
Voilà, exactement.
Très bien.
Ça, c'est le vendredi soir.
Ok. Et ensuite, le samedi et le dimanche, il y a les 3 spectacles qui seront proposés. Je crois que ça commence au milieu d'après-midi vers 16h.
C'est ça. C'est le premier spectacle, c'est 16h. C'est Juliette Malfray qui nous présente L'écho du vignoble.
Ouais.
Et Juliette Malfray, petite parenthèse, c'est une amie de longue date. Enfin, de longue date, oui, on s'est rencontrés dans nos différents projets avant d'arriver ici. Et je me suis rendu. Quand on a fait notre première édition l'année dernière, elle me disait, oui, mais mon oncle, il habite juste en dessous, là.
Okay.
C'est une locale, et c'était génial de la mettre en avant cette année. Et Juliette, donc, elle va créer L'écho du vignoble, qui est une pièce à partir, on va dire, vraiment pour les tout-petits. C'est vraiment familial.
Okay.
C'est vraiment tout public, mais vraiment pour les petits, quoi. Donc ça, c'est 16h.
Avec l'idée d'écouter les vignes.
Voilà.
C'est complètement fou.
C'est complètement fou. Donc, elle est parce que effectivement, elle est comédienne, chanteuse, metteuse en scène. Donc, elle est vraiment complète et elle va nous faire découvrir des petites inventions, le vignophone.
Ok, on peut écouter.
Mettre en relation avec la vigne.
Donc, que la vigne
ça va être quelque chose.
Il y a un spectacle qui est toujours avec. Là, on était plutôt sur le vin. On passe à l'alimentaire. Ça s'appelle Déjà vu et c'est proposé par Alessandro Bocinaro.
Exactement, Alessandro Bocinaro.
Avec l'accent, c'est beaucoup plus joli. Ouais, c'est bien de me reprendre.
Et avec Alessandro, lui est metteur en scène aussi sur Paris, il est italien, et lui, il est directeur artistique d'un festival qui a déjà de longues dates, de longues années derrière lui, qui est un festival dans les Abruzzes, en Italie, qui s'appelle Théâtre in Quota, qui est théâtre en altitude, la traduction. Okay. Et qui, pareil, dans la même dimension, le rural, les histoires du territoire, le lien avec les participants et avec les gens du coin. Et donc ouais, lui, il a décidé de travailler sur déjà vu, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir de manière très ludique avec le public. Mmh. Donc vraiment
un théâtre
participatif, okay, dans l'idée. Et sur la question vraiment de la fête de village. On appelle ça la fête de village. Lui, il s'inspire d'un mot en italien qui s'appelle sagra, qui est la fête qui met à l'honneur, on va dire, les traditions culinaires.
Okay.
Où du coup, collectivement, on se met à table.
La tradition, le rituel.
Voilà. Okay. Tu vois, un peu ce... Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait rituel et qu'est-ce qui fait qu'il y ait magique de se retrouver pour ce genre d'événement, quoi.
Ok. Et donc, le déjà vu, c'est le côté on répète des choses chaque année. Il y a des rendez-vous qui se refont chaque année, chaque mois, parfois.
C'est un peu ça. C'est un lien, en fait, avec la tradition et la symbolique de cette tradition, quoi. C'est exactement ça.
Et enfin, un dernier spectacle, Terre battue. Alors, je ne me suis pas noté le nom des artistes cette fois-ci.
Alors, les noms des artistes, je les connais par cœur, j'espère. ça sera Louis Berthélémy qui a mis en scène, en fait, La Lie l'année dernière,
okay,
qui nous repropose, en fait, une fiction historique cette année. Et les comédiens sont, je vais les dire un peu en ordre, Emma Meunier, Irène Voyatsis, Charlène Nezan, Manika Auxir, Martin Van Ekout, Jérémy Galliana, Guylain Decléty et William Burroughs. Et moi-même, je joue dedans. Voilà.
Et là, ça a parlé de tennis, de régime de Vichy et de résistance. J'ai pris des mots-clés dans le synopsis.
C'est
alors
ça.
Peut-être racontez-nous un petit peu plus
c'est
en détail.
C'est ça. Ça, c'est venu aussi toujours, comme on en a parlé tout à l'heure sur la Lie de l'année dernière. Louis avait des désirs de création pour cette année. Et cette année, c'était plutôt un lieu, parce que dans cette maison, c'est-à-dire la maison où le festival se passera, il y a un court de tennis.
Okay.
Un ancien court de tennis. Enfin, il y a encore, on est en train d'un peu de le... Il a un peu vieilli, parce que ça fait quand même 50 ans qu'il est là.
Ouais.
Et Louis, avec donc une envie, c'était de faire une pièce
dans
par rapport au tennis. Enfin, dans le tennis, complètement. Okay. Et donc après, dans ses élucubrations et dans ses recherches, il est tombé sur des grandes joueuses de tennis, Suzanne Lenglen, mais aussi, je les ai marquées ici, Simone Mathieu, et j'en ai une dernière, je crois, mais je ne sais pas si... Oui, Raymond Weber-Jones, qui étaient en fait des grandes tennis women de l'époque, et notamment Simone Mathieu, qui a rejoint la résistance, qui a tout un parcours en fait pendant l'occupation étonnant, détonnant et étonnant, je dirais. Et Louis, en fait, avec cette ouverture et d'autres, on va dire, références plus littéraires et cinématographiques, Le Jardin des Fizi Contini ou par exemple Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, il a réussi à composer donc voilà une espèce de fiction ambiancée oui, en 1941-42, France libre.
Ouais.
France occupée au nord, France libre au sud, c'est-à-dire Lyon, le Beaujolais, etc. Histoire de trois sœurs qui fuient l'occupation, rejoignent une maison de campagne de leurs parents, de leur père, qui est la maison même dans le Beaujolais, et qui vivent la guerre sans vraiment la vivre. Et en fait, leur quotidien va être bousculé par des questions d'accueil et de refuge qui vont mettre à mal, on va dire, voilà, cette espèce fausse sérénité, on pourrait dire ça comme ça, qu'on vivait en France libre. Donc c'est un questionnement sur l'accueil, sur l'engagement, sur l'histoire, en fait, aussi française, de la France libre, du régime de Vichy, donc, et le sport, en fait.
Ouais.
Et le sport, parce que il y a un lien, il est dit dans le spectacle, il y a un lien entre le sport, le régime de Vichy et, ouais, et ces réalités-là. Puis bon, il y avait Roland Garros et puis il y a les JO, quoi. Voilà.
D'actualité au niveau du sport et puis au niveau politique, malheureusement,
on
n'est pas si loin, donc ça peut faire pas de mal de se rappeler d'un petit peu.
Exactement. On jouera justement en plus le 7, donc ça sera le jour de
deuxième tour des élections législatives. Donc on avait fait le tour du programme, de la proposition artistique de ce festival Les Longues Journées. Je rappelle, ça a lieu justement du 5 au 7 juillet, 5, 6 et 7, à Ville-sur-Jarnoux.
C'est ça.
Est-ce qu'il faut réserver des billets? Est-ce qu'il faut...
Alors justement, nous, on a une petite politique, on va dire, de billetterie qu'on a mis en place l'année dernière, qui est la question du prix libre, déjà. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de... Voilà, on vient, on donne ce qu'on veut. Ouais. Et ce qu'on peut, on va sûrement conseiller un prix par rapport à, évidemment, juste pour ne serait-ce aussi de communiquer ça, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, sortir un peu de la logique marchande. Mais ça c'est un truc qui nous tient beaucoup à cœur. Et cette année, comme l'année dernière, on part sur un sans réservation.
Okay.
C'est-à-dire que pour l'instant, on est quand même un petit festival. On a eu on a eu quand même pas mal de spectateurs l'année dernière. On en attend un peu plus cette année. Donc, ça sera un peu notre temps. Voilà, c'est un peu température. On va jauger la température cette année pour si on continue le sans réservation.
Ok. Donc, moi, je donne rendez-vous déjà en attendant sur l'Instagram de la du Tout Vent.
Compagnie du Tout Vent, exactement.
On vous retrouve facilement et puis on a toutes les informations pratiques.
Voilà, exactement. Et là, en plus, plus le temps s'approche, plus on va bombarder en communication. Mais il y a déjà quand même, je pense, toutes les infos pour...
Quoi faire pour savoir où aller, quand aller.
C'est ça. Et je précise que le dimanche soir, en clôture, on a aussi un DJ set.
Ouais.
Pour ceux qui sont venus le samedi, parce que les pièces se jouent soit le samedi, soit le dimanche, on peut venir quand même faire la fête aussi.
On peut revenir
le dimanche pour clôturer, quoi. Avec Galatone, qui est un duo de DJ.
Parfait, on a toutes les informations. Merci beaucoup, Edouard, d'être venu nous en parler.
Merci à vous de m'avoir invité, c'est super chouette.
Et avec plaisir, le rendez-vous est donné.
Calade, la Méridienne.